La conscience de ce que je suis prend place dans la perception intemporelle qui n'accumule ni ne rejette, qui ne stimule ni ne dupe. Je crée un champ sans identité ni centre, un champ où même la mort devient une pure analogie. Je n'aspire pas à un résultat. Je laisse seulement exister ce champ qui n'a ni objectif, ni désir, ni perfection, ni même la moindre vision de réalisation. À l'intérieur de ce champ, la perception primale, omniprésente, est tout. C'est la lumière qui pénètre par les fenêtres de mon univers. Les mémoires volées. Le soleil avait commencé son ascension et jetait sur les dunes son éclat cru. L'étau sentait sous lui le sable coulant comme une caresse que ses oreilles humaines, cependant, entendaient comme un frottement abrasant de son gigantesque corps. Il y avait là une contradiction sensorielle avec laquelle depuis longtemps il avait appris à vivre. Il entendait Siona qui marchait derrière lui, avec une relative légèreté dans son pas, faisant couler de fins ruisseaux de sable tandis qu'elle gravissait la dune, se hissant à son niveau. « Plus je dure, plus je deviens vulnérable », songea-t-il. C'était une pensée qui lui venait souvent ces temps-ci, quand il allait dans son désert. Il leva la tête pour scruter le ciel, qui était sans nuages, d'un bleu d'une densité inégalée, même dans l'ancien temps de dune. Qu'était-ce qu'un désert sans un ciel entièrement bleu? Dommage qu'il ne puisse avoir les tons argentés de dune. Ce ciel était réglé, pas toujours à la perfection, par des satellites ixiens. La perfection, celle qui aurait exactement correspondu à ses désirs, était un rêve de machine que compromettait la gestion humaine. Mais les satellites avaient assez d'emprise pour lui donner au moins cette matinée de paix du désert. L'étau en gonfla ses poumons humains et attendit Siona. Il ne l'entendait plus marcher. Il savait qu'elle s'était arrêtée pour admirer le désert. L'étau usait de son imagination comme un illusionniste évoquant tout ce qui avait concouru à établir les conditions matérielles de cet instant. Il ressentait les satellites, ces baguettes miraculeuses qui orchestraient la symphonie des masses d'air en mouvement qu'il fallait refroidir ou réchauffer, des courants verticaux ou horizontaux qu'il fallait perpétuellement surveiller et régler. Il souriait à la pensée que les Ixiens avaient cru au début que ces instruments délicats allaient lui servir à imposer une nouvelle forme de despotisme hydraulique, en privant d'eau ceux qui défiaient leur seigneur, ou bien encore en déchaînant sur d'autres d'effroyables tempêtes atmosphériques. Comme ils avaient été surpris par la suite de leur erreur. Mon contrôle s'exerce de manière plus subtile. Lentement, sans heurts, il se remit en mouvement, glissant à la surface du désert, se laissant couler sur la pente de la dune, sans s'être retourné une seule fois pour regarder l'aiguille dressée de sa tour qui allait disparaître bientôt, il le savait, dans le voile de chaleur atmosphérique. Siona le suivait avec une docilité inhabituelle chez elle. Le doute avait accompli son œuvre. Elle avait lu les mémoires volées. Elle avait écouté les admonestations de son père. Et maintenant, elle ne savait plus que penser. « Quelle est cette épreuve ? » avait-elle demandé à Moneo. « Que va-t-il me faire ? » ?»«
Ce n'est jamais pareil. »«
Comment était-ce pour toi ? » ?»«
Ce sera différent dans ton cas. Je risquerais de semer la confusion dans ton esprit si je te parlais de mon expérience. »
À leur insu, l'étau avait écouté leur conversation tandis que Moneo préparait sa fille en lui faisant revêtir un authentique disti Fremen avec sa cape de couleur foncée. Les pompes à talons avaient été correctement réglées, ce qui prouvait que Moneo n'avait rien oublié à travers les années.
« Le verre va sortir »,
avait déclaré le majordome en se baissant pour ajuster les bottines de sa fille.
« Je ne puis t'en dire plus. » Il faudra que tu te débrouilles pour continuer à vivre en sa présence.
Il s'était redressé pour expliquer à Siona comment le disti recyclait l'eau de son corps. Il lui fit dérouler le tuyau d'une petite poche, lui montra comment aspirer le liquide
et comment le reboucher. Tu seras toute seule avec lui en plein désert, avait repris le majordome. N'oublie pas que Shai Hulud n'est jamais très loin, quand on marche à travers les sables.
Et si je refuse d'y aller?
Avait demandé Siona. Tu iras. Mais il n'est pas sûr que tu en reviennes.
Cette conversation s'était déroulée au rez-de-chaussée de la petite citadelle, tandis que Leto attendait tout en haut, dans son nid d'aigle. Lorsqu'il avait entendu que Siona était prête, il s'était laissé descendre dans le crépuscule du matin, jusqu'au pied de la tour, en utilisant les suspenseurs de son chariot. Quand Moneo et Siona étaient sortis, il avait fait rentrer le chariot dans la salle du rez-de-chaussée. Moneo était monté dans son ornie, qui avait décollé aussitôt dans un froissement d'ailes. Leto avait prié Siona de vérifier que la porte du rez-de-chaussée était bien fermée, puis de lever les yeux vers les impossibles hauteurs de la tour.
La seule issue possible maintenant, c'est la traversée du Sarir, dit-il.
Il s'était éloigné lentement de la tour, sans même lui ordonner de le suivre. Il comptait sur son bon sens, sa curiosité et ses doutes. Après avoir dévalé le versant glissant de la dune, Leto traversa une étendue de roches nues pour attaquer la pente douce d'une nouvelle dune, créant un sillage que Siona pouvait suivre aisément. Les Fremen appelaient ses ornières « le don de Dieu à celui qui est fatigué ». Il avançait lentement, laissant à Siona le temps de reconnaître qu'ils étaient à présent dans son fief, dans son habitat naturel. Arrivé au sommet de la nouvelle dune, il se retourna pour la voir avancer. Elle n'avait pas quitté son sillage et elle ne s'arrêta que quand elle fut à son tour sur la crête. Son regard se posa un instant sur le visage de Leto, puis elle fit un tour complet sur elle-même, observant l'horizon. Leto entendit le sifflement de son inspiration profonde. La brume de chaleur voilait tout le haut de la tour. La base ressemblait à une lointaine inégalité de terrain.
« Voilà comment c'était avant, » dit-il.
Il y avait dans ce désert, il le savait, quelque chose qui parlait à l'âme immortelle de ceux qui possédaient du sang Fremen. Il avait choisi cet endroit, une dune un peu plus élevée que les autres, à cause de son impact à cet égard.
« Regarde bien partout, » dit-il.
Puis il se laissa glisser sur l'autre versant de la dune afin d'ôter sa masse de sa vue.
Siona accomplit lentement un nouveau tour d'horizon. Leto savait exactement ce qu'elle ressentait devant un tel spectacle. À part l'insignifiante irrégularité représentée par la base de la tour, il n'y avait rien, absolument rien, qui modifiât la courbure de l'horizon.
Tout était plat, partout.
Pas la moindre plante, pas le moindre mouvement de vie. De la hauteur où elle se tenait, la ligne d'horizon était approximativement à 8 kilomètres de distance.
Leto s'était arrêté juste de l'autre côté de la crête.
Il lui cria « Tu vois ce que c'est que le véritable Sarir. On ne peut apprendre à le connaître que si on le parcourt à pied. C'est tout ce qu'il subsiste du Bar Belama. »
« L'océan sans eau, » murmura Siona.
Elle se tourna une fois de plus pour embrasser tout l'horizon du regard. Il n'y avait pas de vent. En l'absence de vent, Leto le savait, le silence rongeait l'âme.
Siona devait être en train de ressentir la perte de tous ses points de référence familiers. Elle se trouvait abandonnée dans un espace dangereux.
Leto se tourna vers la dune suivante. En prenant cette direction, ils allaient bientôt arriver en vue d'une ligne de collines basses, vestige d'une ancienne chaîne de montagnes à présent réduite à l'état de monticule et d'éboulis. Ils continuaient à se reposer tranquillement, laissant le silence faire le travail à sa place.
Il était même plaisant d'imaginer que ces dunes se déplaçaient encore, comme autrefois, sans fin, autour de la planète.
Mais les rares qui restaient étaient en train de dégénérer. En l'absence des tempêtes de Coriolis de l'époque de Dune, le Sarir ne connaissait guère que quelques brises un peu fortes et des tourbillons de chaleur qui ne pouvaient avoir que des effets locaux.
L'un de ces diablotins était justement en train de danser à mi-chemin de l'horizon du sud.
Siona le suivait des yeux,
Abruptement, elle demanda « Avez-vous une religion ?»
Il fallut un moment à Leto pour composer sa réponse.
Il était toujours surpris de constater que le désert inspirait des idées de religion. « Tu oses me demander si j'ai une religion personnelle » fit-il.
Sans trahir en surface la peur qu'elle éprouvait, Siona s'avança sur la crête et baissa les yeux vers lui. L'audace avait toujours été la marque des Atréides. Voyant qu'elle ne répondait pas, il formula sa pensée à haute voix.
« On ne peut pas dire que tu n'es pas une Atréide. »«
C'est cela votre réponse ?
Mais que veux-tu savoir exactement, Siona ?
À quoi vous croyez ?
Hein ? Tu me demandes en quoi j'ai foi ? Eh bien, je crois que quelque chose ne peut pas émerger de rien sans une intervention divine. »
Cette réponse la rendit perplexe.
« En quoi est-ce une
« natura non facit saltus » dit Leto.
Elle secoua la tête, ne comprenant pas l'antique citation qui lui était venue aux lèvres.
« La nature ne fait pas de sceaux », traduisit-il.
« Quelle était cette langue ?» demanda Siona.
« C'est un ancien idiome qui n'est plus parlé nulle part dans mon univers. »
« Pourquoi l'avoir utilisé dans ce cas ?»«
Pour raviver tes souvenirs anciens. » »«
Je n'en ai pas. Je voudrais seulement savoir pourquoi vous m'avez fait venir jusqu'ici. » »«
Pour te faire goûter à ton passé. Viens ici. Grimpe sur mon dos. »
Elle hésita tout d'abord, puis comprit la futilité de toute défiance. Elle se laissa glisser sur le versant de la dune et escalada le dos de Leto. Celui-ci attendit qu'elle fût à genoux sur lui. Ce n'était pas comme dans l'ancien temps, elle ne disposait pas d'hameçon à faiseur qui lui aurait permis de se tenir debout. Il souleva légèrement un de ses segments antérieurs pour lui fournir un appui.
« Pourquoi suis-je en train de faire ça ? »
demanda-t-elle d'une voix qui indiquait à quel point elle se sentait stupide, perchée là-haut.
« Je veux te faire goûter à la manière dont notre peuple parcourait autrefois ce pays, sur le dos des grands vers des sables. »
Il se mit à glisser le long de la crête, à peine en contrebas. Siona avait vu de nombreux holos. Elle avait fait cette expérience intellectuellement, mais la réalité, il le savait, avait une pulsation différente, et elle ne pouvait manquer d'y être sensible.
Ah, Siona,
tu ne te doutes pas encore de l'épreuve qui t'attend. Leto se durcit délibérément.
Je ne dois avoir aucune pitié, songea-t-il.
Si elle doit mourir, qu'elle meure. Quand l'un d'eux périt, c'est un événement nécessaire, rien d'autre. Il dut se rappeler que ceci s'appliquait même à Huinori. Simplement, ils ne pouvaient pas tous mourir. Il s'aperçut que Siona commençait à apprécier la sensation que lui procurait la promenade. Il la sentit changer de position, en s'appuyant davantage sur ses talons et en redressant la tête. Il se lança alors le long d'une barricade incurvée, partageant le plaisir ancien qu'avait retrouvé Siona. Il discernait à peine les restes des collines devant lui à l'horizon. Elles étaient comme une graine du passé en attente, un rappel de la force autarcique en expansion qui opérait dans tous les déserts. Il pouvait oublier, l'espace d'un instant, que sur cette planète, dont seule une infime partie demeurait désertique, la dynamique du sarir se superposait à un environnement précaire. L'illusion du passé était tout de même bien là. Il la sentait plus forte à mesure qu'il avançait. Fantasme, évidemment, se disait-il. Fantasme évanescent tant que durait sa paix forcée. Même l'immense barricade qu'il traversait en ce moment n'était pas aussi vaste que celle du passé. Aucune des dunes n'était aussi vaste. Tout ce désert entretenu lui parut subitement ridicule. Il ralentit l'allure, s'arrêtant presque sur une surface caillouteuse entre les dunes, essayant d'évoquer les contraintes qui faisaient fonctionner tout le système. Il se représentait la rotation de la planète déplaçant des masses d'air chaud ou froid vers de nouvelles régions, le tout supervisé et ordonné par les minuscules satellites ixiens avec leurs panneaux d'instruments et leurs réflecteurs de chaleur. S'il voyait quelque chose, il devait voir le sarir en partie comme un désert en relief, entouré de murailles à la fois de pierre et d'air froid. Cela contribuait à former de la glace à la périphérie, entraînant la nécessité de nouveaux réglages atmosphériques. La tâche était complexe. Et pour cette raison, l'étau pardonnait une erreur de temps à autre. Tandis qu'il s'avançait de nouveau parmi les dunes, il perdit cette notion de délicat équilibre, écarta le souvenir des désolations caillouteuses qui entouraient les sables et s'abandonna aux joies de son océan pétrifié avec ses vagues figées, immuables en apparence. Il obliqua vers le sud, longeant à distance la ligne des anciennes collines. Il savait que la plupart des gens étaient choqués par son amour du désert. Cela les mettait mal à l'aise. Il regardait ailleurs. Siona, elle, ne pouvait pas regarder ailleurs. Partout où elle dirigeait les yeux, le désert s'imposait. Elle demeurait silencieuse, juchée sur l'échine de l'étau, mais celui-ci savait qu'elle ne perdait rien du paysage, et que les très, très anciens souvenirs commençaient à tourner dans sa tête. Moins de 3 heures plus tard, ils arrivèrent dans une région de dunes presque cylindriques, en dos de baleine. Certaines formaient un cordon de 150 kilomètres de long, disposé obliquement par rapport au vent dominant. Plus loin, un couloir rocheux au milieu des sables les conduisit dans un secteur de dunes étoilées dont certaines atteignaient une hauteur de 400 mètres. Finalement, ils pénétrèrent parmi les dunes entrecroisées de l'ergue centrale, où les hautes pressions de l'atmosphère chargées d'électricité donnèrent un coup de fouet à l'étau. Ils savaient que la même magie devait s'exercer sur Siona.
« C'est ici que sont nés les chants de la longue marche, » dit l'étau. « L'histoire orale les a parfaitement conservés. »
Elle ne répondit pas, mais il savait qu'elle avait entendu. Il ralentit alors considérablement l'allure et se mit à lui parler de leur passé Fremen. À mesure qu'il racontait, il sentait s'accroître l'intérêt de Siona. Elle l'interrompit même à une ou deux reprises pour lui demander une précision, mais cela n'empêchait pas l'étau de sentir ses angoisses augmenter. De l'endroit où il se trouvait, il ne pouvait même plus apercevoir la base de la petite citadelle. Siona ne pouvait plus poser son regard sur rien qui fût bâti par la main de l'homme. Et elle risquait de croire qu'il cherchait maintenant à détourner son attention par la conversation afin de préparer quelque chose de sinistre.
C'est ici également qu'est née l'égalité entre les hommes et les femmes de notre peuple, dit-il.
D'après votre huitesse, répliqua Siona, une telle égalité n'existe pas?
Sa voix, pleine d'interrogations incrédules, permettait mieux à l'étau de la localiser que le contact imprécis sur son dos. Il s'immobilisa à l'angle de deux dunes croisées et laissa s'apaiser l'émission d'oxygène causée par sa chaleur intérieure.
« Ce n'est plus la même chose aujourd'hui, » dit-il. « Les hommes et les femmes obéissent à des contraintes évolutionnaires différentes. Avec les Fremen, cependant, il y avait une véritable interdépendance. Cela rendait l'égalité indispensable dans ces territoires où les questions de survie immédiate avaient la primauté.
« Pourquoi m'avez-vous amené ici ?» demanda Siona.
« Regarde derrière nous. »
Il sentit qu'elle se retournait. Au bout d'un moment, elle murmura
« Que suis-je censé voir? Avons-nous laissé une trace? Peux-tu dire d'où nous venons? Il y a un peu de vent. A-t-il couvert nos traces?
Je pense, oui.
Ce désert nous a fait tel que nous avons été et tel que nous sommes à présent encore. C'est lui le véritable musée de nos traditions. » Pas une de ces traditions ne s'est vraiment perdue.
L'étau aperçut une petite tempête de sable, Ghibli, qui traversait l'horizon au sud, précédée par de minces rubans de poussière et de sable. Siona avait dû la voir aussi.
Pourquoi ne voulez-vous pas me dire pour quelle raison vous m'avez fait venir jusqu'ici?
Demanda-t-elle d'une voix qui laissait percer son angoisse.
Mais je te l'ai déjà dit.
Pas du tout.
« Quelle distance avons-nous parcouru, Siona ?»
Elle réfléchit.
« 30 kilomètres ? 20 peut-être ?»«
Plus que ça, » dit l'étau. « Je suis capable de me déplacer très vite sur mon terrain.
Tu n'as donc pas senti le vent sur ton visage ?»«
Oui, »
fit-elle, soudain renfrognée.
Mais pourquoi me demander la distance ?
Descends un peu et viens te mettre devant moi que je puisse te voir.
Pourquoi ?
Parfait, songea-t-il. Elle se méfie. Elle a peur que je l'abandonne, que je m'éloigne trop vite pour qu'elle puisse me suivre.
Descends et je t'expliquerai, dit-il.
Elle se laissa glisser de son dos et vint se placer devant son visage.
Le temps passe vite quand on occupe ses sens, fit-il. Il y aura bientôt 4 heures que nous sommes partis. Nous avons parcouru environ 60 kilomètres. En quoi cela a-t-il de l'importance ?
Monéo a placé de la nourriture dans la poche de ta cape.
Prends-en un peu et je te répondrai.
Elle trouva dans sa poche un cube de protomore séché, dont elle mâcha un morceau sans cesser d'observer l'étau. C'était l'aliment authentique des anciens Fremen, y compris l'adjonction d'une petite quantité de mélange.
« Tu as senti ton passé, » lui dit-il. « Il faut maintenant que tu sois sensibilisé à ton avenir, au sentier d'or. »
Elle déglutit.
« Je ne crois pas à votre sentier d'or. Si tu dois vivre, tu y croiras.
C'est cela votre épreuve ?
Croire au grand dieu Leto ou bien mourir ?
Tu n'as absolument pas besoin d'avoir foi en moi. Tout ce que je veux, c'est que tu crois en toi.
Dans ce cas, en quoi la distance que nous avons parcourue est-elle importante ?
Elle peut te faire comprendre le chemin qu'il te reste à faire.
Elle porta la main à sa joue.
À l'endroit où tu te trouves en ce moment, reprit Leto, tu es au cœur incontestable de l'infini. Regarde autour de toi et comprends la signification de l'infini.
Elle regarda, à droite puis à gauche, le désert sans faille.
Nous allons traverser à pied mon désert, continua Leto. Tous les deux. Rien que toi et moi.
Vous n'avez pas de pied, fit-elle ironiquement.
C'était une façon de parler. Mais toi, tu iras à pied, je peux te l'assurer.
Elle tourna les yeux dans la direction par laquelle ils étaient venus.
C'est donc pour cela que vous m'avez demandé si nous avions laissé des traces. Même s'il y avait des traces, à quoi te serviraient-elles ? Si tu retournais à la petite citadelle, tu n'y trouverais rien qui puisse t'aider à survivre.
Pas même de l'eau ?
Rien du tout.
Elle tira sur le tuyau enroulé dans sa petite poche, aspira un peu de liquide et le remit en place.
Leto remarqua le soin avec lequel elle le rebouchait. Cependant, elle ne remit pas le rabat devant sa bouche, malgré les recommandations de son père que Leto avait entendues.
Elle voulait pouvoir continuer à parler librement. « Vous cherchez à me faire comprendre que je ne peux pas me sauver, » dit-elle.
« Sauve-toi si tu veux. »
Elle accomplit de nouveau un tour complet sur elle-même, scrutant les étendues désolées.
« Il y a, » reprit Leto, « un dicton à propos du désert, selon lequel une direction en vaut une autre. D'une certaine manière, c'est toujours vrai, mais je ne compterai pas trop là-dessus.
Je suis vraiment libre de vous quitter si j'en ai envie.
La liberté est parfois un état solitaire.
Elle désigna du doigt le versant escarpé de la dune au sommet de laquelle il s'était arrêté.
Je n'aurais qu'à me laisser glisser là. À ta place, Siona, je n'essaierai pas de faire ça.
Pourquoi ? Fit-elle en lui lançant un regard suspicieux.
Sur le versant abrupt, si tu ne suis pas bien les courbes naturelles, tu risques de provoquer un glissement de sable et de te faire ensevelir.
Elle contempla le sable à ses pieds, méditant ce qu'il venait de dire.
Tu vois quelle peut être la beauté des mots ?
Demanda Leto.
Partons-nous ? Fit-elle en reportant son attention sur son visage. Nous sommes dans un endroit où l'on apprend à apprécier l'indolence et la courtoisie. Rien ne presse.
Mais nous n'avons pas d'eau, à part, si tu sais t'en servir, le disti te maintiendra en vie.
Mais combien de temps mettrons-nous pour... Ton impatience m'inquiète.
Nous n'avons que ce petit morceau de nourriture séchée dans ma poche. Que mangerons-nous quand...
Siona, te rends-tu compte que tu t'exprimes
comme si nous étions dans la même situation, toi et moi. Que mangerons-nous? Nous n'avons pas d'eau. Combien de temps mettrons-nous?
Il perçut la sécheresse de sa bouche tandis qu'elle essayait de déglutir.
Pourrait-il se faire que nous nous trouvions dans un état d'interdépendance? Demanda-t-il.
Elle répondit avec réticence.
Je ne sais pas ce qu'il faut faire pour survivre dans ce désert. Et moi, je le sais?
Elle acquiesça sans mot dire.
Pourquoi partagerais-je avec toi de si précieuses connaissances?
Reprit Leto. Elle haussa les épaules. Ce geste pathétique le toucha. Comme le désert faisait vite tomber les comportements antérieurs.
Je veux bien partager avec toi, dit-il.
Mais il faudra que tu trouves quelque chose de même valeur à partager avec moi. Le regard de Siona parcourut toute la longueur du corps vermiforme, s'arrêta un instant sur les moignons palmés qui étaient autrefois ses jambes et ses pieds, puis revint au visage.
Une promesse obtenue sous la menace n'est pas une promesse, dit-elle. Qui parle de violence? Il existe différentes formes de violence.
Et je t'ai amené ici où tu pourrais mourir?
Quel choix m'avez-vous laissé? La vie n'est pas facile pour celui qui est né Atréide.
Je suis bien placé pour le savoir, crois-moi.
Vous n'étiez pas obligé d'agir de cette manière.
Là, tu te trompes. Il se détourna d'elle et entreprit de descendre le versant de la dune selon un parcours sinusoïdal. Il l'entendit glisser et trébucher dans son sillage. Il ne s'arrêta que quand il fut au cœur de l'ombre projetée par la dune.
« Nous attendrons ici jusqu'à la tombée du jour, » dit-il. « On gaspille moins d'eau en voyageant de nuit. »